France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Un patrimoine radiophonique.
En 1976, Pierre Dupriez et Serge Martel, avec Jean-Jacques Vierne à la réalisation, nous entraînaient à la découverte d'un continent littéraire. De guide en guide, c'est-à-dire de lecteur en lecteur, eux-mêmes fabuleux pour leur amour porté à ce continent, nous en devenons les géographes passionnés. Sur un air d'accordéon, voici cette nuit Yves-Olivier Martin et ses romans de colportage au XIXe siècle, Gilbert Sigaud et le mélodrame, Jean Leclerc et les lecteurs défavorisés, Léo Mallet et son évocation de Fantomas et Gaston Leroux, Jean-Baptiste Barognan et la clôture du roman policier, François Le Lyonnais sur Paul Féval, Jacques Van Herp enfin sur Arsène Lupin et la justice morale.
Ces maîtres du roman populaire dont il va être question sont nombreux. Mais innombrables ont été et sont encore leurs lecteurs passionnés, haletants et transportés d'enthousiasme. Fervents lecteurs eux-mêmes de ces rocamboles, Pardaillan et autres Lavarède, les auteurs de l'émission n'ont d'autre but, en tentant d'éclairer des œuvres souvent décriées ou à tout le moins dédaignées, que d'acquitter une dette de reconnaissance envers ces romanciers feuilletonistes rarement en panne d'imagination. Nous avons divisé notre cycle en quatre parties. La première sera consacrée au genre rocambolesque et au début du roman policier. La seconde au roman historique, de cap et d'épée, à l'aventure terrestre ou maritime et à l'exotisme. Troisième volet, le roman dit demeure, avec ses chastes et flétries, abandonnées le soir de ses noces et condamnées à devenir porteuses de pain, voire pochardes. Enfin, dernière partie, fantastique et anticipation scientifique. Les impératifs des horaires, les nécessités de la sélection, ont fait que nous allons certainement encourir le reproche de ne pas avoir parlé de tous les romanciers populaires. Mais cette émission n'ambitionne pas d'être un répertoire de noms d'auteurs, ni un catalogue. Elle ne veut être qu'apéritive, en quelque sorte, et donner envie à l'auditeur d'aller rechercher, au fond d'une malle, dans un grenier poussiéreux, deux ou trois soirées passionnantes qui dormaient sous la couverture colorée et accrocheuse d'un vieux roman populaire. Yves-Olivier Martin, nous allons vous soumettre à la petite épreuve de nos émissions sur les maîtres du roman populaire. Est-ce qu'on peut vous demander votre définition du roman populaire ?
Eh bien, le roman populaire semble, au départ, s'adresser surtout à un public populaire, enfin, représenter les drames sociaux, puisque le roman populaire surgit avec Sue, avec Dumas. Donc, au départ, le roman populaire se différencie du roman littéraire en ce qu'il s'occupe surtout des problèmes sociaux, les conditions des ouvriers, enfin des artisans, alors que le roman littéraire s'en occupe pas ou pas du tout, ou très peu. Et le terme lui-même de roman populaire apparaît déjà dans une lettre de Walter Scott à propos de Soulier, qui était un des grands auteurs de cette époque romantique. Au départ, vers 1840, le roman populaire semble désigner tout ce qui a trait non seulement aux ouvriers, mais enfin aux intrigues historiques, aussi à la Dumas. Puis le roman populaire, à ce moment-là déjà, prend la forme de roman feuilleton et devient beaucoup plus ample. Il devient roman d'amour, roman d'aventure, roman policier, roman exotique. Et il devient si ample que Vers la fin du XIXe siècle, le roman populaire absorbera le naturalisme. Il y a une grande influence de Zola dans le roman populaire, et même quelques échos du symbolisme. Et même à la limite, on verra des auteurs littéraires écrire des romans populaires, et vice-versa, le tic littéraire sera repris par les auteurs populaires.
Yves-Olivier Martin, est-ce qu'on peut, dans l'histoire du roman populaire, découvrir vraiment les précurseurs de ce roman qui a passionné tant de générations ?
Oui, les précurseurs immédiats, ça semble être, enfin, il faut dire un petit mot, c'est le roman de colportage. Puisque le premier roman policier, c'est un grand mot, mais enfin, d'aventure quand même criminelle autour d'un héros populaire, ce sont les aventures de Michel Morin, qui paraissent au temps de Louis XV, et il s'agit d'un héros populaire qui fait des crimes, des vols, c'est une espèce d'Arsène Lupin avant la lettre. Mais le roman populaire ne se dégage que vers 1820, vers le milieu de la Restauration, avec des auteurs comme d'Arlincourt, comme Madame Cottin, comme Racan, comme Ducange. Il est encore très soumis à l'influence romantique et surtout à l'influence du roman noir, l'influence d'Anne Radcliffe. Et ses précurseurs, comme Ducret et Duminil, par exemple. Ducret et Duminil est le grand auteur du Directoire et du Premier Empire. Ses précurseurs vont employer un peu tout ce qu'on verra au temps de l'époque romantique. Dès 1800, chez Ducret et Duminil, on trouve des, comme dans le roman noir, on trouve des cachots, on trouve des forteresses, on trouve des victimes infortunées, on trouve des enfants perdus, on trouve des séquestrations. Donc c'est un peu tout ce qu'il y aura dans le grand roman populaire du XIXe siècle, de Gensu à Féval, à Morphy, à Zévaco. Et en même temps, ce roman noir, enfin puisque Ducret Duminil est encore un romancier noir, ce roman noir va plus tard va porter la marque d'Hoffmann. Après Ducret Duminil et son frère, Ducret Montbaillard, qui a écrit un des premiers romans policiers, Charles Lahousset, ex-flibustier, fils de Cartouche, qui paraît en 1809. Après eux, il y a Louis-François Raban, qui vit au temps de Charles X. Et Louis-François Raban, lui, est vraiment un auteur populaire, au sens premier du mot, puisqu'il dépeint presque uniquement les petits métiers. Rien que les titres, on voit « Mémoire d'un forçat », La baronne et le bandit, c'est déjà l'opposition des classes. Oui. L'auberge des Adrets, manuscrit de Robert Macaire. Charles Rabou continue cette veine-là, surtout dans le roman policier. Puis c'est Pierre Dinaucourt, enfin là il faut quand même aller un peu vite. Puis Amédée Gouette, avec La pente du crime, qui est un des premiers romans policiers. Et surtout, je crois, le plus intéressant de cette période, parce que toujours à propos du roman policier, on dit « c'est Gaboriau », et avant « c'est le déluge », ce sont les ténèbres, or il y en avait déjà. Il y a un auteur qui s'appelle Charles Barbara, et qui a publié, quelques 15 ans avant Gaboriau, avant les débuts de Gaboriau, « L'assassinat du Pont Rouge », qui a paru en 1855. Et c'est un roman assez extraordinaire, parce que c'est le roman de l'assassin, d'abord, et en plus, c'est un roman tout à fait amoral. Dans les romans policiers classiques, l'assassin est puni, démasqué est puni. Il y a une sorte de justice immanente. S'il échappe aux tribunaux, il meurt de façon plus ou moins violente, foudroyé, etc. Alors que Charles Barbara le fait mourir tout à fait accidentellement.
C'est à la même époque que vivait cet autre romancier qui, à mon avis, est important dans ce domaine, oui, et qui était bien méconnu maintenant, Constant Guérou.
Ah oui, Constant Guérou.
Constant Guérou, est-ce qu'il est de cette époque ?
Oui, il est un petit peu, vous voyez, Constant Guérou, il est né à Elbeuf en 1811, le 21 février 1811. Je crois que Gaboriau est né vers 1835, donc il est antérieur à... nettement à Gaboriau. Il est entré dans le commerce et puis il gagne Bruxelles et il vend un journal belge, quelques nouvelles remarquées, vers 1844. Puis il vient à Paris, il collabore à La Patrie, après avoir été commis drapier au magasin de Saint-Joseph. Sa première nouvelle, La Rose flétrie, fut acceptée par Le Moine, directeur de La Patrie, puis il travailla pour l'éditeur Gabriel Roux. Et il écrit une série de romans de KPDP, là, avec Moll et Gentilhomme, avec Gonzalez.
Mais enfin, son œuvre...
Son œuvre principale, c'est la bande à Fifi Valard.
Et le film de la rue du Temple.
Contrairement à ce qu'on a coutume de penser, Gaborio n'est tout de même pas le seul précurseur du roman policier tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres
avant. Et j'avoue que ce que vous nous avez raconté tout à l'heure nous laisse rêveur, car il y a une technique, même du romancier, qui est assez extraordinaire, et qui n'est peut-être pas tout à fait... qui ne reflète pas la technique de la moitié du XIXe siècle, avance.
Oui, puisque Barbara semble en avance sur son siècle. Il emprunte des techniques qui ne sont même pas chez Gaborio. Son récit scientifique a quand même une enquête. Il y a déjà des indices, il parle des indices. Alors que chez Gaborio, c'est un peu fourre-tout. Il y a toujours son retour en arrière, et alors c'est vraiment du mélo, il retourne dans les origines de la famille, de l'assassin ou de la victime. C'est beaucoup plus feuilletonesque.
Alors pourquoi on a gardé et on réimprime Gaborio alors que les auteurs que vous avez cités...
Je pense que c'est par facilité. C'est par facilité. On a retenu Gaborio parce qu'en effet, il est important, il ne faut pas l'oublier. Mais on a retenu Gaborio... parce qu'il se détache, évidemment, sous l'Empire, comme le grand auteur. Il a été le secrétaire de Féval, alors ce titre-là, il a eu une certaine gloire. Alors que Barbara, le malheureux, ce qui est très curieux, il s'est tué, et il avait déjà une hantise du suicide, puisque dans l'assassinat du Pont Rouge, c'est un crime maquillé en suicide. Dans un autre roman, il parle de suicide, et il s'est tué en se jetant de l'asile où il était interné. Barbara est mort tout à fait inconnue, quoi.
Il faut dire aussi que Gaborio, si on en croit l'histoire un peu de ce temps, Gaborio a eu la chance d'être soutenu par une publicité extraordinaire au moment de la parution de Monsieur Lecoq, par exemple.
Petit journal, sûrement, il y a eu une publicité extraordinaire.
Gilbert Sigaud, nous allons vous demander, comme à tous nos invités, votre définition du roman populaire, si vous en avez une.
Alors, j'en ai pas une, j'en ai plusieurs, parce qu'il me semble qu'il est très difficile de définir cet énorme monstre, ce monstre qu'est le roman populaire, en une seule définition. Je crois qu'on peut dire que, comme l'a dit M. Martin, il y a des origines littéraires, bien sûr. Il a rappelé le roman noir, qui avait différentes branches, etc., qui est venu d'Angleterre, qui a été... refait en France, il a cité Walter Scott, il n'a rien oublié, donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'il me semble aussi très important, c'est l'incitation sociale, disons. Évolution de ce qu'on appelait, un peu plus tard, mais ce qu'il faut appeler, il y a un livre qui les définit très bien, les classes dangereuses. Ce sont les classes dangereuses qui ont été une des parties prenantes du roman populaire. Puis il y avait les petits bourgeois, les lecteurs de Paul de Kock, me souviens plus si M. Martin l'a cité, Paul de Kock, mais c'est un auteur extrêmement important. Il était des romans populaires boulevardiers, des histoires de grisettes, de petites actrices, de commis de boutique, etc. Mais Paul de Kock a été un auteur extrêmement fécond et qui a, entre les années 1830 et les années 1860 à peu près, a eu une énorme clientèle. Alors, si cette clientèle n'avait pas existé, Paul de Kock aurait fait quoi? J'en sais rien. De la même façon que le mélodrame, qui est très près du roman populaire par ses thèmes et quelquefois par ses auteurs, on trouve les mêmes auteurs dans le roman populaire et dans le mélodrame. Il y a là, entre ces deux genres, entre guillemets, mélodrame et roman populaire, il y a aussi des communications. Et ils répondent tous les deux à un surgissement social, à une évolution sociale ou sociologique, qu'il faudrait définir de façon précise dans des livres avec des études. Enfin, cela a été fait en partie, mais je pense que c'est en dehors de votre projet. Voilà donc le roman populaire. En plus, il évolue suivant les générations, bien entendu, puisqu'on laisse tomber des thèmes qui sont désuets. Et on en prend d'autres qui sont d'actualité. C'est l'évolution du contenu social. La société évolue, il y a les chemins de fer. À partir du moment où il y a les chemins de fer, les chemins de fer rentrent dans le roman populaire. La commune est un élément aussi qui ajoute des thèmes au roman populaire. Il y aura après, l'après-défaite fait que le roman populaire devient cocardier et militariste, comme le théâtre du reste. Il y avait, entre 1870 et 1914, il y a une littérature militaire assez cordiale, pas toujours revendicative, mais cordiale, bougonne, râleuse, populacière, amusante, et rarement dramatique, qui utilise l'importance qu'avait l'armée à cette époque dans le contexte, comme on dit aujourd'hui, en vous disant plus simplement dans la vie quotidienne populaire, enfin dans le sens le plus large du terme, populaire française dans les provinces. On avait à ce moment-là une caserne et un colonel dans des tas de villes. Il y avait les villes de garnison. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le colonel avait une importance. Il donnait des balles, il mariait ses officiers aux gens de la bourgeoisie. Bon. À partir de tout ça, ça faisait un univers militaire. Il y avait une classe militaire très différente de celle qui existe aujourd'hui. Et c'est aussi un élément du roman populaire. On pourra aller très loin, parce que je ne vais pas me mettre à définir toutes les composantes de la vie française entre le Premier Empire et 14.
Bref, le roman populaire, bref.
C'est un continent.
Oui, c'est un continent, et ça n'est pas seulement, comme on a pu le dire, une littérature alimentaire.
Non, elle est alimentaire pour ceux qui la font aussi, pour une grande part. Je ne crois pas qu'on puisse l'ignorer.
À vous entendre, Gilbert Sigaud,
c'est difficile de fixer la frontière.
Oui, et c'est difficile aussi de donner une définition, et surtout une définition lapidaire du roman populaire.
Je crois pas que
c'est... Il n'y a pas de formule.
Non, parce que le roman populaire, tel qu'il était lu, consommé, écrit entre 1800 et 1830, disons les 30 premières années, avant le premier déferlement des grands Dumas, qui a commencé quand même avant les Trois Mousquetaires. Il y a eu beaucoup de romans de Dumas intéressants, historiques, Actés par exemple, qui se passe sous Néron, et qui est un roman historique et très intéressant. Bon, il y a donc, entre 1800 et 1830, une série d'auteurs, il y a des consommateurs, il y a des formes de publication, et puis après il y en a d'autres. Le journal, et je crois que M. Martin l'a dit, ça influe beaucoup sur le contenu même et sur le rythme, la façon dont sont composés les romans populaires. Mais dans les feuilletons, il n'y a pas que des romans populaires. Les romans de Balzac, il y en a bien la moitié qui ont paru en concurrence avec les grands Eugène Sue et les grands Dumas dans les mêmes journaux ou dans les journaux concurrents. Alors, littérature populaire, est-ce que c'est de la sous-littérature ? Non, ça nous répugnerait. Je crois que c'est un canton de la littérature, dont on peut peut-être dire que la marque, une des marques, est sa précarité. C'est-à-dire que les auteurs de romans populaires disparaissent assez rapidement, pas à nos yeux, nous sommes des lecteurs, ou des érudits, mettons ça entre guillemets, des spécialistes, des gens attentifs à cela. Mais pour le lecteur qui consomme du roman populaire, aujourd'hui il ne lit plus Mérouvel, il ne lit plus Jules Marie, pas parce qu'on les réimprime pas, bien entendu qu'on ne les réimprime pas. Ils ont des successeurs et les éditeurs font vivre les vivants.
Jean Leclerc, définition du roman populaire.
Pour moi, je puis donner une définition lapidaire.
Bravo.
C'est un fait social. Je défends la littérature populaire par piété et par amour. Par piété, en effet, tous les miens étaient des ouvriers. Mes grands-parents étaient des ouvriers, tous mes oncles étaient des ouvriers mécaniciens, carreleurs, textiles, etc. Et je les ai toujours vus lire des feuilletons, des fascicules, des romans populaires. Et à travers eux, à travers la littérature populaire, je recrée mes disparus. Je les aime. Et je les vois lire. Je vois mon grand-père lire en remuant les lèvres, comme ça se faisait beaucoup à l'époque chez les ouvriers qui ne savaient pas lire comme nous, en diagonale, n'est-ce pas ? Ils éplaient en lisant. Et alors, ensuite, par amour, voyez-vous, dans tout le pays, il y a des milliers de monuments aux morts, des victimes, des soldats tombés à la guerre. Mais il n'y a pas de monument de ceux qui ont créé la richesse de la France et dans les autres pays aussi, qui est aujourd'hui. Ceux qui, de 1830 à maintenant, toujours, mais surtout de 1830 à, mettons, 1905, ont été sacrifiés pour réaliser l'accumulation primitive, les ouvriers. Et les ouvriers du 19e siècle, la littérature populaire était ce qu'ils lisaient. Et par amour des ouvriers, par respect de toute cette génération d'ouvriers qui a passé, j'aime la littérature populaire qui était leur littérature, qui était la littérature qu'ils lisaient, qu'ils n'écrivaient pas, bien entendu, parce qu'ils étaient incapables d'écrire. D'ailleurs, même dans le socialisme, les grands écrits du socialisme sortent de Marx et Engels, qui n'étaient, vous le savez aussi bien que moi, pas des ouvriers, bien sûr.
En définitive, que demande alors le peuple à la littérature populaire ?
Oh, c'est clair. Clair pour moi. Deux choses. D'abord, se distraire. Surtout, la première littérature populaire, celle qui a existé de 1830 à la guerre, 1914, et qui s'est un peu prolongée jusqu'à 35-40. La distraction. La distraction. Surtout, dans le 19e siècle, nous n'avons pas le cinéma, nous n'avons pas la radio, nous n'avons rien. Qu'est-ce qui peut distraire les pauvres gens ? Des livres. Des livres écrits simplement, écrits de manière intéressante, en ballant, des livres, des aventures pathétiques. Il veut donc se distraire. Toute la littérature populaire de 1830 à 1914 a un premier principal but, distraire le peuple. Et c'est pour ça qu'il trouvera des éditeurs, parce qu'il y a là un marché, et naturellement des écrivains, parce qu'il y a là un marché. Et le deuxième but, évidemment, ce qui les intéresse, il y a plusieurs choses qui intéressent alors dans la lecture même. Premièrement, la réponse à ces problèmes. Que devient un malheureux qui est innocent et qui est accusé ? Que devient une fille mère ? Que devient ceci, cela ? Tout ça est répondu à, d'une manière ou d'une autre dans tel ou tel roman. Et puis l'évasion, l'évasion aussi. Je peux préciser chaque terme qu'on voudrait.
Étant poète surréaliste, étant de surcroît romancier, auteur d'histoires policières, je crois, Léo Mallet, que automatiquement vous devez avoir une certaine tendresse pour les romans populaires et leurs auteurs.
J'ai une tendresse d'autant plus grande que pratiquement c'est en lisant des romans populaires que j'ai appris à écrire.
Est-ce que, à votre avis, c'est une leçon pour un littérateur que d'aller chercher vraiment un modèle de littérature dans ses ouvrages ?
Ce n'était pas précisément un modèle de littérature, mais les auteurs de romans populaires écrivaient un français extrêmement correct. On est surpris, quand on relit actuellement ces romans, de voir le français employé. Il est vraiment remarquable. C'est un français de dissertation pour le baccalauréat, mais enfin, ça tient debout, c'est parfait. Et on doit pouvoir apprendre à écrire en lisant les auteurs de romans populaires.
Vous devriez donner une définition du roman populaire. Quelle serait-elle, Léo Mallet ?
Ah là, je crois que c'est bien difficile. Moi, je n'ai aucune définition du roman populaire, sinon que c'est un roman qui doit avoir une large audience.
Et quels sont les critères pour avoir une large audience ?
Ah ben là, alors vous me prenez de court, moi je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne travaille pas, ne travaillant pas sur commande, je ne sais pas ce qui fait le succès d'un roman ou les best-sellers dont on parle tant et qui ne sont pas d'ailleurs des romans populaires, à mon avis.
Surprendre le lecteur, créer des situations tout à fait inattendues, tout à fait invraisemblables, mais avec un aplomb tel que le lecteur, emporté par le cours du récit, ne puisse s'attarder, du moins dans l'instant, à les contester. Donner au lecteur, en une même page, de multiples raisons de se dire pourquoi, comment, lui répondre, en utilisant la grosse ficelle du flashback, franchement avoué, tels sont des trucs souvent utilisés par le romancier populaire pour tenir son lecteur en haleine. Ainsi procède par exemple Maurice Landais dans le chapitre 11 de La Comtesse Noire, troisième volume de la série des Carreaux coupe-têtes. Olympe d'Estranges, la Comtesse Noire, arrêtée par les soldats de Westermann, doit être fusillée. À la dernière minute, une jeune femme, Marie-Christine, prend sa place devant le peloton d'exécution. En effet, sans qu'Olympe le sache, c'est Caro Coupe-Tête, son mari qu'elle croit mort, qui vient une fois de plus de lui sauver la vie. Elle rejoint alors les troupes vendéennes de la Roche-Jacquelin, c'est une explosion de joie, mais voici qu'en une seule page, on apprend. que Danville, le chevalier Balamour, héros du tome 2, est le père de Caro d'Estrange, époux de la comtesse noire. Cognedur, méprisé par Olympe, a cependant toujours été le bon ange de sa famille et d'elle-même. Un parlementaire républicain vient d'arriver, porteur d'un message de la comtesse noire, invitant ses amis vendéens à se rendre à Westermann. Que ce parlementaire n'est autre que Pierre Catelineau, fils du général vendéen, et qu'il atteste que la comtesse noire est en ce moment même entre les mains des Bleus. Alors, qui est la vraie comtesse noire? Est-ce bien la femme qui se trouve dans le camp de la Roche-Jacquelin? Ne serait-ce pas plutôt celle qui doit tomber sous les balles des soldats de Westermann? Écoutons, car nous ne sommes pas au bout de nos surprises, comment va s'en tirer l'auteur Maurice Landé.
Alors, Olympe, que l'émotion rendait grave et impressionnante au-delà de toute expression, laissa tomber.
Et s'il y en avait deux?
Tous la regardèrent stupéfaits. Elle continua.
Et si, pour faciliter ma fuite, une créature d'abnégation et de dévouement avait pris ma place? Cette femme m'a cédé ses vêtements, cette femme a revêtu les miens. Cette femme devait se tirer heureusement de cette tragique aventure. Du moins, on m'en avait donné l'assurance. Et cette femme va mourir à ma place. Car jamais vous ne répondrez affirmativement à cette lettre. Et non seulement cette femme va mourir, mais ses compagnons démasqués mourront aussi. Pierre Catelineau va dire que la comtesse noire est au camp vendéen. Desblis m'a trahi. Nos frères qui ont contracté un soi-disant engagement dans les rangs républicains, qui ont demandé à faire partie du peloton d'exécution, et tapins, et mitraille. Quelle hécatombe de braves! Je veux qu'on les sauve. Je ne veux pas laisser mourir une innocente.
Juste à ce moment, la toile de la tente fut levée avec précaution. Un homme, la figure cachée par un bandeau, entra, suivi de deux Vendéens, le visage couvert de sang, qui se tinrent derrière lui. Personne sur l'instant ne le remarqua. Olympe, qui avait réfléchi quelques instants, s'écria
« Je m'en tire sous ma tente. D'ici une heure, j'aurai trouvé le moyen de sauver cette malheureuse. »
Mais l'homme qui venait d'entrer déclara
« Inutile de chercher ce moyen, madame. Nous l'avons trouvé. »
Et faisant avancer la fausse comtesse, le visage enveloppé dans ses voiles, il ajouta
« Celle qui s'était sacrifiée pour vous ne mourra pas. »
Ah !
Olympe poussa un cri de joie.
« Libre, sauvée !»
Et elle pressa sur sa poitrine celle qui venait d'apparaître. Tandis qu'Olympe s'occupait de Marie-Christine, l'inconnu disparaissait.
« Mais quel est cet homme ?»«
Qu'on le recherche, qu'on l'amène ici. » »«
Inutile de le rechercher. Il ne se nommera pas. »
Desblis, La Roche-Jacquelin, Fleury, tous, et même Olympe, était sorti de la tente pour voir se perdre à l'horizon l'étrange cavalier. Denville était resté seul avec Marie-Christine. Il questionna en s'approchant de la jeune femme.
« Vous le connaissez, le nom de cet homme ?»«
Oui, je le connais. Et vous aussi. »
Et plus bas, elle ajouta
« Cognedur. »
Mais en prononçant ce nom, sa voix avait changé d'accent. Et en entendant cette voix, Denville avait tressailli, car c'était la voix du compagnon de Chartres.
Chapitre 12. Poudre à canon et poudre à priser. Que s'était-il passé au camp républicain? Sitôt que Marie-Christine eut été à nouveau enfermée, Caro, écroulé dans un coin de la pièce qui précédait la cellule de la condamnée, s'était absorbé dans sa...
Une technique classique, utilisée par le romancier populaire et surtout par le feuilletoniste pour laisser le lecteur sur sa faim, consistait à terminer son rez-de-chaussée quotidien ou son chapitre sur un événement choc ou sur une situation tout à fait inextricable, et de n'y revenir que quelques jours plus tard ou un ou deux chapitres plus loin. Comme le fait, par exemple, Ponson du Terrail dans ce passage extrait des « Voleurs du grand monde ».
La table était dressée à l'européenne. C'était une galanterie à l'adresse de la princesse Catherine Mikhailov. La table supportait six couverts. Quand ils eurent pris place, le comte Paul remarqua que le sixième convive était absent. Le couvert de l'absent était placé entre celui de l'émir et celui de la princesse. Celle-ci, comme on aurait pu le croire, ne s'était point placée à la droite de Couban. Pendant le repas, qui fut silencieux, le comte Paul ne cessa d'observer la princesse et l'émir. Celui-ci témoignait à la jeune femme un grand respect. Il était facile de voir que si l'amour retenait la princesse dans ce village montagnard, ce n'était pas Couban avec sa barbe qui inspirait cet amour. Peut-être était-ce le personnage mystérieux dont l'existence était constatée par cette place vide. De temps à autre, Couban semblait prêter l'oreille à des bruits lointains. Souvent aussi, il consultait du regard un tableau placé dans un coin de la salle. Enfin, un bruit de trompette retentit. Le comte Paul et ses compagnons se regardaient avec inquiétude. La princesse elle-même pâlit légèrement. Peu après, la porte s'ouvrit et deux hommes entrèrent. Deux circassiens poudreux, couverts de sang. Ils portaient un sac de cuir qu'ils placèrent sur la table. « Messieurs, dit alors Couban, vous aviez une mission pour le prince Alican. Permettez-moi de vous le présenter. » Et il ouvrit le sac de cuir et posa sur la table l'objet qu'il renfermait. Le comte Paul et ses compagnons poussèrent un cri d'horreur. Ils avaient devant eux une tête humaine fraîchement coupée, et cette tête, c'était celle du prince géorgien Alican.
Jean-Baptiste Baronian, vous êtes depuis plusieurs années directeur littéraire et l'animateur de ce secteur des éditions Marabout, qui a réédité un bon nombre d'œuvres marquantes du roman populaire. Vous êtes donc bien placé pour nous parler de Ponson du Terrail et de son œuvre. Pouvez-vous nous parler plus précisément de Rocambole? Qu'est-ce qui a passionné les foules dans Rocambole? Ces milliers de pages écrites, je pense...
Je crois que Rocambole est intéressant... je crois que le Rocambole est tout, c'est une masse d'écriture absolument invraisemblable qui charrie d'énormes intrigues, des coups de théâtre, parce que finalement il a élevé au rang de principe le coup de théâtre. Je pense que ce qui est intéressant en fait dans Rocambole, c'est essentiellement le fait que pour une des premières fois, je ne dis pas que c'est la première fois, mais pour une des premières fois, dans l'histoire de la littérature populaire, apparaît le héros dans le vrai sens du terme. Et le fait que ce soit un personnage qui constitue un mythe qui ait été révélé. Parce qu'en fait, les autres grands romans populaires sont intéressants. Je pense par exemple au Mystère de Paris, je pense même au Mystère de Londres de Paul Féval, il y a certains grands romans d'Alexandre Dumas, mais il n'y a pas vraiment un personnage qui se détache. C'est plutôt une atmosphère, c'est plutôt l'ingrédient historique. C'est la considération... essentiellement chez Zenzu, de préoccupations très sociales. Or, l'intérêt, je pense, chez Ponson du Terrail, c'est de mettre l'accent sur le héros. Je ne dirais pas l'homme seul, mais le héros, dans le sens où Tarzan est héros, dans le sens où peut-être Bob Moran est héros, dans le sens où Fantomas est héros. Et je pense qu'il a été le premier à mettre ainsi l'accent sur un seul personnage qui meurt d'une toute série de scènes, de péripéties, aussi bien d'ailleurs en France qu'ailleurs, puisqu'il va se balader jusqu'en Chine, et qu'il tourne autour du monde, qu'il est essentiellement mouvant, et aussi par le fait qu'il lui a donné un caractère un peu insaisissable, un peu bizarre, même très bizarre. En fait, il en fait un surhomme. Et je pense que le côté surhomme de Rocambole est extrêmement important, et il est certainement plus que les personnages sans peur et sans reproche qui existaient peut-être chez Gustave Aimard ou qui existaient certainement chez Paul Chaval avec Le Bossu.
Mais il est assez étonnant de remarquer quand même que Rocambole n'apparaît pas ou si peu dans le premier volume, donc il n'y a pas une démarche délibérée de la part de...
Ah, je ne crois pas. Non, je pense qu'il n'y a pas... Je vous l'ai dit. Je
c'est
dit,
un
je
personnage
pense
qui a pris de l'ampleur petit à
absolument.
Petit.
Absolument. Et je pense que ça rejoint essentiellement le phénomène pour son Dérail, c'est que c'est quelqu'un, en fait, qui a d'énormes disponibilités, qui, en fait, ne se découvre jamais qu'au fur et à mesure. Il essaye beaucoup de choses. Je vous ai dit, il s'est essayé au roman du terroir, il s'est essayé au roman de KPDP, il s'est intéressé au roman social. Et peut-être qu'en faisant Rocambole, il sait...
Sa propre
écriture
démarche.
Faisant, rendu compte qu'il découvrait quelque chose de profondément original. Et ça va me citer tellement loin, il vraisemblablement ne l'a-t-il jamais compris parce qu'il a fait que des mesures. Et qu'en réalité, dans cette masse de Rocambole, il y a très peu de choses qu'on ne peut plus lire. Et si on les lit, c'est essentiellement peut-être pour en sourire, pour s'amuser. Mais en fait, tout ça ne tient pas debout.
Oui.
Régis Messac voit dans Ponson du Terrail, dans propos de certains de ses romans, comme le docteur Roussel, par exemple, un précurseur du roman policier. Est-ce que vous êtes de cet avis ?
Absolument. Je suis absolument de cet avis parce que, et peut-être encore une fois, n'est-ce pas délibéré de la part de Ponson du Terrail, ce qui ne m'étonnerait pas, je pense que c'est peut-être moins frappant dans Rocambole, c'est peut-être plus frappant dans La Baronne Trépassée, c'est certainement plus frappant dans un roman dont le titre m'échappe.
Il y a Le Capitaine des Pénitents Noirs.
Le Capitaine des Pénitents Noirs, exactement. Le Capitaine des Pénitents Noirs est à mes yeux un modèle, un archétype du roman policier moderne, dans la mesure où il se présente à nos yeux comme la recherche d'une solution. C'est-à-dire qu'un événement se passe, quelque chose se passe, et il s'agit de savoir par quels moyens on peut le résoudre. Il est le premier qui a inventé l'univers fermé du roman policier, parce que je crois que dans le roman policier, il y a l'univers clos et l'univers ouvert. Il est le premier qui peut-être a été l'introducteur du roman clos. C'est-à-dire quelque chose se passe dans un milieu relativement fermé, et il s'agit d'apporter la solution. Et tout le roman, en réalité, avec ses fuites sur le côté, avec ses fuites en arrière, ses sautes incessantes et perpétuelles, et la recherche d'une solution.
Est-ce qu'on peut savoir comment écrivait Ponson du Terrail ? Est-ce que vous avez une idée de cette technique, de ces procédés ?
Mais il paraît qu'il écrivait, je dis bien il paraît, parce qu'encore une fois, les sources sont peu fréquentes, ce qui est assez normal, parce qu'il était... il n'était pas un personnage public, je vous dis, il a vécu très longtemps à l'écart de Paris. Il écrivait de manière extrêmement abondante et, paraît-il, très peu d'heures par jour. Très peu d'heures par jour, ce qui est assez frappant. Il se levait, dit-on, le matin très tôt, dans son château. Il ne déjeunait jamais et il écrivait tout de suite jusqu'aux alentours de 10 heures. Alors à 10 heures, il y avait toute une cérémonie. On lui apportait non seulement son petit déjeuner, on lui apportait son cheval. Il faisait un grand tour dans son parc. Et puis il faisait une sieste qui durait 4-5 heures, dit-on toujours, et puis il n'écrivait pas, il dormait, voilà. Et alors ce qui est fantastique, c'est qu'il écrivait simultanément 5 ou 6 romans à la fois. Et d'ailleurs dans la plupart des grandes revues populaires du XIXe siècle, le nom de Ponson du Terrail apparaissait dans un journal, et puis dans un autre, etc. Et il semble même qu'il y ait c'est une anecdote qu'on raconte, il semble même qu'un jour, et personne n'a rien remarqué, il s'était trompé dans l'envoi des chapitres des textes et que un roman commençait par le chapitre 1, par le chapitre premier, et le second chapitre en fait devait normalement avoir trait à un autre roman qui paraissait simultanément dans une autre vue, et personne n'y avait remarqué, lui-même non plus.
Et comment ces romans étaient-ils accueillis? Je pense qu'il avait beaucoup de succès.
Énormément. C'est un des écrivains qui a le plus contribué à la vente au XIXe siècle, non seulement des livres, mais essentiellement des revues. On dit même que l'apparition de Ponson du Terrail dans les grandes revues faisait décupler le tirage. Et on connaît même des tirages avoisinant de 2 millions d'exemplaires grâce à Ponson du Terrail. C'est absolument fabuleux.
Ah oui, en effet.
Et alors, bizarrement, ces romans publiés en volume n'ont pas très bien marché, n'ont pas beaucoup marché. Souvent d'ailleurs, ce n'étaient pas des originales, puisque la plupart du temps, avec 2 millions d'acteurs évidemment, ils pouvaient considérer qu'ils avaient fait son plein, c'est qu'après coup, qu'ils paraissaient en volume, dans le vrai sens du terme. On connaît très peu d'originales et en paru en volume. Tous ces romans ont paru essentiellement en feuilleton.
La vengeance, thème familier aux romanciers populaires dont les personnages évoluent avec une grande désinvolture dans un climat de crime et de sang. Pour eux, la vie des hommes n'est pas inestimable. Comme tout, elle s'achète. Et les marchands de crime s'engagent, avec l'assurance de commerçants dont la réputation de bons fournisseurs est parfaitement établie, sur un prix et sur un programme. Témoin, le marché passé dans le club des valets de cœur de Ponson du Terrail, entre Dainata et Sir Williams.
Que cherchez-vous ?
Un homme fort.
Vous êtes une folle d'amour et vous avez dans l'âme les brûlantes colères d'une tigresse à qui l'on a enlevé son tigre.
Oui, je hais à mort.
La vengeance coûte cher.
J'ai 20 millions. Je ne vous ai jamais vu. Je ne sais ni qui vous êtes ni de quel pays vous venez. Mais j'ai lu dans vos yeux que vous étiez celui que j'attendais pour me venger.
Vous avez raison. Je suis le vengeur par excellence. Que voulez-vous faire ?
J'aime mon cousin et je veux l'épouser.
Pour cela, il faut que la marquise meure.
Je le sais. Et rien ne serait plus facile. J'ai des esclaves qui, sur un mot de moi, iraient poignarder ma rivale. Morte, il l'aimera encore et je ne veux plus qu'il l'aime.
Que donneriez-vous à celui qui aplanirait tous ces obstacles ? Qui supprimerait la marquise et vous ferait aimer de votre cousin ?
Tout ce qu'il voudrait.
Eh bien, le jour où vous serez marquise Van Hoppe et femme aimée, vous me donnerez 5 millions.
Et elle sera morte ?
De mort violente.
Morte et oubliée ?
Morte et exécrée par celui qui l'aura adorée.
Vous dites qu'elle mourra de mort violente ?
Oui.
De quelle main ?
De la main de son propre époux.
Est-ce possible ?
Tout est possible à Paris quand j'y suis, madame.
Mais enfin...
Ah, vous voulez savoir ? C'est inutile. Qu'il vous suffise d'apprendre que dans un an, la marquise sera morte, assassinée et maudite par son mari, et que 2 mois après, vous épouserez votre cousin, qui passera le reste de sa vie à vos genoux.
Paris, en ce milieu du XIXe siècle, est le décor de prédilection de la plupart des romans populaires dits de mœurs. Paris, considéré déjà comme le creuset du vice. Paris, où le bien, la pureté, etc., penchent du côté du peuple, et non plus du côté de l'aristocratie ou de la bourgeoisie parvenue. Écoutons à ce propos les imprécations de Sir Williams.
Oh, Paris, Paris, tu es la vraie Babylone, le vrai champ de bataille des intelligences, le vrai temple où le mal a son culte et ses pontifes. Et je crois que le souffle de l'archange des ténèbres passe éternellement sur toi comme les brises sur l'infini des mers. Oh, tempête immobile, océan de pierre, je veux être au milieu de tes flots en courroux, cet aigle noir qui insulte à la foudre et dort souriant sur l'orage, sa grande aile étendue. Je veux être le génie du mal, le vautour des mers, de cette mer, la plus perfide et la plus tempétueuse, de celle où s'agitent et déferlent les passions humaines. Oh, Armand de Kergaz, toi que je hais comme les ténèbres exècrent la lumière, tu as été fou le jour où tu m'as défié.
François Le Lyonnais, vous avez lancé la réédition des Habits Noirs, que vous avez ensuite postfacé, et que vous citez comme une épopée méconnue. Vous avez, dans un volume de cette série, présenté une chronologie des principaux événements de l'œuvre. Qui sont et que sont donc ces Habits Noirs pour vous ?
Il s'agit d'un cycle de 7 romans, dont le premier s'appelle Les Habits Noirs, dont les personnages se retrouvent plus ou moins dans les 6 autres, et de ce que j'appelle 3 romans satellites, très remarquables aussi, Les Mystères de Londres, Les Compagnons du Silence et Jean Diable. Mais ils sont tous dominés par ce cycle de 7, Les Habits Noirs, Cœur d'Acier, La Rue de Jérusalem, Le Larme Invisible, La Valeur de Sable, Les Compagnons du Trésor et La Bande Cadet. C'est en effet une épopée, non seulement méconnue, mais qui est très supérieure à l'œuvre, à mon avis, à l'œuvre la plus souvent citée d'habitude de Paul Féval, qui est Le Bossu. C'est un bon roman, Le Bossu, mais qui ne vaut pas Les Habits Noirs. Très supérieur, à mon avis aussi, à l'œuvre des autres grands romanciers populaires français, à Alexandre Dumas, À Eugène Sue, eh bien, c'est le grand peut-être. Pour moi, le Eugène Sue ne vaut pas. Et les mystères de Paris ne valent pas les mystères de Londres. Il est supérieur à Ponsan du Terrail, dont je connais Rocambole par cœur, bien entendu, mais qui est très décousu, finalement, qui est excellent, mais à un autre point de vue que les habits noirs. Supérieur à Frédéric Soulier. Je ne vous cite que des écrivains, que des romanciers que j'aime beaucoup. Le numéro un, c'est Féval.
Et qui sont les habits noirs, en fait?
Alors, oui. Eh bien, c'est donc une bande qui met l'Europe et surtout la France au pillage pendant, disons, sous Louis-Philippe, aussi pendant la première Restauration et aussi après. Alors, ils sont dirigés par un personnage de légende, qu'on appelle le colonel Pozzo di Borgo, qui a beaucoup de noms. Qui est plus que centenaire, qui enterre tous ses lieutenants, lesquels complotent contre lui pour le dépouiller, mais c'est lui qui les dépouille. Et la bande des habits noirs, en quelque sorte, dont les principaux héros sont Monsieur Lecoq, un petit peu une reprise du personnage de Vidocq, d'ailleurs. La rime n'est pas par hasard, parce qu'il est lui aussi brigand et à un moment donné chef de la police. Monsieur Lecoq, Marguerite Sadoulas, la duchesse de Bourgogne, etc. Cette bande ressemble, est organisée un peu comme le conseil d'administration d'une affaire capitaliste au XIXe siècle. Dans les réunions autour d'un tapis vert, on met au point une opération exactement comme une opération de multinationale en ce moment. On se plaint du gaspillage, du coulage, des négligences. Les procédés mis en œuvre, ce qu'ils appellent la mécanique, ont une valeur vraiment tout à fait convaincante.
C'est un peu une caricature, alors, du conseil d'administration.
Eh bien, il y a presque un côté, aussi presque un côté balzacien, à mon avis. Une sociologie voisine de celle de Balzac, sans prétention, mais à coup sûr.
Vous êtes mathématicien et vous êtes aussi écrivain. Qu'est-ce qui a pu vous attirer, vous fasciner dans les habits noirs, précisément? Qu'est-ce qui a pu satisfaire les deux côtés de votre personnalité?
Eh bien, en effet, chacun des deux a été très satisfait. En moi, le mathématicien, eh bien, c'est l'intelligence avec laquelle Paul Féval bâtit et mène ses intrigues. Bon, il y a des intrigues compliquées dans tous les romans feuilletons, dans tous les romans populaires, surtout ceux du XIXe siècle, mais leur complication n'est jamais bien dominée. Il y a des contradictions. Non seulement cette chose n'arrive pas avec Paul Féval, mais une intrigue dans un roman des habits noirs, c'est une intrigue qui est goupillée avec un soin, une perfection qui me font penser, si vous voulez, à ce qu'on appelle d'abord en mathématiques la théorie des graphes. Mais je n'entrerai pas dans l'explication de ce qu'est cette théorie, qui est une très belle théorie. Ça, si vous voulez, ça ressemble un petit peu aux études que doivent faire nos ingénieurs de la SNCF quand ils bâtissent les horaires des trains. Il ne s'agit pas de bâtir un horaire tel que deux trains se rencontreraient sur les mêmes rails au même moment. Il y aurait des télescopages. Et c'est très difficile de faire un bon horaire de la SNCF pour que les trains partant à l'heure arrivent à l'heure, etc. C'est le même soin que je trouve dans Féval, dans une seule journée des habits noirs notamment. Chaque minute et chaque allée et venue avec les distances à l'intérieur de Paris, tout cela est supérieurement agencé. Il y a aussi un agencement supérieur dans la compréhension psychologique. Il y a, je crois qu'on, au-dessus de l'œuvre de Féval, on pourrait placer une phrase qu'il a citée et que j'ai reprise pour la mettre en exergue au deuxième manifeste que j'ai écrit pour une société secrète. Oui, je suis moi aussi fondateur de société secrète. Celle-ci s'appelle Loulipo et parmi mes bras droits, j'ai Raymond Queneau, j'ai Georges Perec, etc. Eh bien, je leur ai proposé de prendre comme drapeau cette phrase de Paul Féval « Je travaille pour des gens qui sont intelligents avant d'être sérieux ». C'est ce que nous sommes et c'est ce qu'il savait très bien être. Voilà donc cette complexité dominée que j'admire beaucoup. Il avait d'ailleurs fait val du goût pour les sciences de son époque dans un livre qui n'est pas encore réédité et je le regrette beaucoup. C'est un des plus beaux, Jean Diable. Il y a tout un développement de l'application du calcul des probabilités qui était naissant à cette époque-là à la recherche policière qui est très remarquable. Il admire aussi Jules Verne. Il connaissait très bien Jules Verne. Et il appréciait les bateaux à vapeur. Enfin, il a un sens du progrès technique et scientifique qui est assez remarquable. Maintenant, bon, le mathématicien a assez parlé, oui, mais l'écrivain. Eh bien, Le style de Féval est, elle aussi, d'une nettement supérieur à celui de tous les écrivains que j'ai cités. Il écrit mieux, mieux qu'Alexandre Dumas, beaucoup mieux que Ponsard du Terrail, c'est pas difficile. Mieux que Fantômas, dont l'un des pères était un de mes grands amis, Marcel Lalin.
Mieux que Soulier aussi.
Mieux que Soulier aussi, qui est quand même meilleur écrivain que ceux que j'ai cités, effectivement. Mais ce que j'admire, je citais tout à l'heure Queneau, bien ce que j'admire dans la série des Habits Noirs, c'est par exemple la reprise du langage parlé, tel que vous la retrouveriez dans Asie, dans le métro. Le langage parlé de ce monde de pauvres hères, des rapins, des bonimenteurs de foire, des clowns, etc., pris avec une vérité criante.
Donc voilà ce qui satisfait l'écrivain, en fait, le style.
Oui.
Et est-ce que quand même dans Féval on peut trouver aussi une peinture de l'époque assez exacte ?
À coup sûr, eh bien je vous le disais, il y a quelque chose, un côté assez balzacien. Il n'a pas quand même consacré sa vie à la sociologie, si je puis dire, comme Balzac, qui ne connaissait pas le mot sociologie, inventé à la même époque par Auguste Comte. Mais vraiment, il y a des peintures, par exemple, d'études de notaires. C'est l'importance des notaires au XIXe siècle, époque où on ne se proposait pas de taxer les plus-values. Les études de notaires, c'était quelque chose d'extraordinaire comme bouillon de culture. La bourgeoisie qui montait, la bourgeoisie Louis-Philippard, que détestait Féval. Il se sent justement comme beaucoup de nobles, de petits hobereaux de l'ancien régime, plus près des gens du peuple, des paysans, des artisans, des petits boutiquiers. Il y a une sorte de poujadisme en lui, qui préfère de beaucoup à la bourgeoisie riche et capitaliste, à la bourgeoisie des grandes surfaces actuelles, qu'il n'a pas connues, mais contre laquelle il aurait été. De sorte qu'il y a toute une peinture très juste de la paysannerie, des artisans, aussi du peuple des ruisseaux, en quelque sorte, qui est excellente, des gens riches qui grimpent à l'assaut du pouvoir. Et au fond, c'est une caricature de cette montée du capitalisme vers la puissance que vous trouvez dans les Habits Noirs, dans le conseil d'administration des Habits Noirs.
Vous venez tard ce soir, monsieur Mathieu.
Je n'ai plus mes jambes de 15 ans. Et j'ai fait beaucoup de besogne aujourd'hui. Je suis bien là.
Tu vaudrais trop cher si tu avais tes deux jambes. Tiens, bois.
Merci, patron.
La préfecture est à nos trousses.
Ça vous amuse ?
Ça m'amuse, parce que toute la meute va me chercher où je ne suis pas, mais où je pourrais bien être un jour ou l'autre, car la partie vaut d'être jouée. As-tu tué, toi, Mathieu ?
Et vous, patron ? Le baron Schwartz est au salon. Et la baronne dans le boudoir.
À deux pas l'un de l'autre. La porte entre eux deux ne ferme qu'au loquet. De quoi serait capable cet Othello alsacien ?
La baronne sait qu'il est là. Elle a sur la figure un voile épais.
Et nous irons loin, mon cher Mathieu. Et vous retrouverez une paire de jambes. Si cela peut s'acheter avec des billets de banque. À propos de billets... Les nôtres sont-ils retouchés ?
En voici un de chaque sorte.
Lequel est le vrai ? Le graveur de la banque n'y verrait goutte. Il faut tirer, et vite.
On y est. J'ai donné le bon d'avance. 4 millions en 2 jours.
Bravo ! Ah, avec ça, mon vieux Mathieu, tu pourras te payer un sérail comme le Grand Turc. Mon plan est un chef-d'œuvre. Ne sortons pas de là. Au rapport, marche.
Le baron Schwartz est chez vous ce soir parce qu'il a pris comme un voleur l'empreinte d'une clé qui ouvre le secrétaire de sa femme.
Il en est bien capable.
Et la baronne est là parce que la jeune Edmé lui a rapporté un bouton de diamant perdu dans l'escalier de Monsieur Michel. En outre, elle sait que son mari a pris l'empreinte.
Excellent. Quand un plan est bon, tout vient l'améliorer.
Comme ils venaient sans le savoir au même endroit, le baron et la baronne se sont rencontrés dans votre cour. La baronne portait dans une cassette le contenu du fameux secrétaire. Et il y a eu là-bas, sous vos fenêtres, une scène à la Beaumarchais.
Tu y as assisté?
Pardi.
Tu es vraiment un drôle de corps. Voyons ta scène.
La femme est poursuivie par le mari. Elle entre, voilée comme une figure de deuil.
Ouais.
Le mari est sur ses talons.
Ouais.
Un homme passe dans la cour par hasard. La femme lui plante sa cassette entre les bras et disparaît.
Ouais.
« Donnez-moi cette cassette !» crie le mari à l'homme tout ébahi. « Je vous le défends !» répond une seconde femme non moins voilée et surgissant, tout à point pour faire le coup de théâtre.
« Qui ?» cette autre femme.
« La comtesse Corona. »
« D'où sortait-elle, celle-là ?»«
De terre, apparemment. »
« Et l'homme qui passait par hasard ?»«
Le jeune monsieur Michel. »
« Ah, la bonne heure. Ah, tout va bien. » Alors le baron a laissé échapper la cassette.
En saluant la comtesse Corona jusqu'à terre, s'il vous plaît.
Était-il dupe?
À demi.
A-t-il reconnu Michel?
Parfaitement.
Ah, tout y est. Et j'aurais payé la Corona à l'heure, qu'elle n'aurait pas mieux manœuvré. Quand un plan est bon, vois-tu, la situation est nettoyée d'un seul coup.
Ouais, ouais.
En avant! Plus rien à désirer. En arrière, plus rien à craindre. Et ça, c'est de 4 millions. Ne te gêne pas, on pourra aller jusqu'à 6. Ah, la poire est mûre. Dans 3 jours, mon camarade, tu auras gagné le gros lot. Tu pourras t'acheter un demi-cent de femme, hein, puisque tu aimes ça. Ah, j'entends des femmes qui ne se vendent pas. Mais gare. Marche droit. Dans une heure, si je voulais, tu serais en route pour le bagne.
Non.
Je te tiens comme les autres. Et c'est tant mieux pour toi. Car si tu n'avais pas une de mes cordes autour du cou, je me défierais de toi.
Patron.
Je suis le père. Maintenant, le général de la Camorra. L'habit noir, selon le rite de la merci. Le maître à Paris, à Londres. Le maître partout. Oui. Ces deux-là qui attendent sont ma proie. Je les entame par l'attente. Je les brise d'avance. Je les humilie. Je les macère. Je leur fais peur. Ah, ça me grandit en les rapetissant. Cela me donne toute la force qu'ils perdent. J'ai l'air de bavarder, mais j'agis. Plus ils attendront, plus ils seront souples. Et jadis, nous étions obligés de patiner.
Ah oui.
Nous faisions bouche en cœur. Nous corbions les chines. Tout est changé. Selon les temps, le monde prend telle ou telle façon de tomber en enfance. Il était cagot, il est philosophe et devient idiot. À force de craindre croque-mitaine, colotin, tartuffe, Basile et autres monstres de carton collés par les hommes de génie. Changement sur toute ligne. L'opposé de tartuffe est le bourru bienfaisant. Sois brutal, on te croira. Oui. Mène les gens à coups de pied, voilà la franchise. Parle à tout instant de ton égoïsme. On se dira, c'est un apôtre. Ah, bonhomme. Tu vas voir comme nous allons profiter de la comédie. Cache-toi là. Écoute et regarde. Ceci est sérieux comme 4 millions. Attention, au rideau. Nous commençons.
Philippe Mello, vous êtes jeune, quel âge avez-vous?
16 ans.
Et vous, 16 ans, j'aurais quand même imaginé qu'il était un peu plus âgé. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le roman populaire? Quels sont les titres qui vous attirent particulièrement?
Eh bien, plus particulièrement les livres de Fantomas, de Pierre Souvers et Marcel Alain, pour leur texte qui recèle toute une atmosphère, un mystère de ces années-là qui me plaît énormément. En plus, je retrouve les couvertures des 65 centimes qui sont vraiment merveilleuses, les dessinateurs arrive à créer toute une ambiance à travers ses couvertures en couleurs vraiment fantastiques. Ensuite, il y a les romans de Gaston Leroux, les trois fameux parus en 65 centimes, c'est-à-dire Un homme dans la nuit, Le roi mystère et La reine de Saba, que je trouve enfin assez fantastiques dans leur texte, même si certains sont assez classiques dans le genre des romans populaires, d'autres, recèlent toute une... vraiment cette atmosphère qui lui est propre et qu'on retrouve pratiquement jamais ailleurs.
Mais en fait, ce qui vous a intéressé d'ailleurs dans Fantomas et dans Gaston Leroux, c'est le côté quasiment surréaliste alors à ce moment-là de l'écriture.
Surréaliste et mystérieux. C'est vraiment du côté de l'atmosphère que tout se révèle. Un intérêt, une impression qui sort de ces livres et qui nous prend.
Chaque aventure nouvelle de Fantomas présente quatre parties. Première partie, description d'un milieu paisible ou non. Les auteurs font preuve d'une connaissance minutieuse du milieu décrit. Cette description est large et simple. Deuxième partie, un crime est commis avec des circonstances mystérieuses, généralement par un domestique faux et dans un endroit hermétiquement clos. L'habileté du policier juve découvre que l'auteur du crime est un complice de Fantomas. Troisième partie, l'habileté du policier juve découvre qu'une haute personnalité, quelquefois un monarque, n'est autre que Fantomas Grimé. Quatrième partie, une course fantastique amène Fantomas poursuivi et le policier poursuivant sur divers points du globe. Chute du Niagara, tuyau de locomotive, environ de Grenoble, rade de Cherbourg, ferrures extérieures de la tour Eiffel, le fond de l'Atlantique, etc., etc. Dans ces occurrences, les auteurs ne se montrent pas seulement des savants très forts en géographie et en guide Johann, des chauffeurs experts, mais des poètes aigus, terribles, des auteurs dramatiques d'une ingéniosité unique. J'ajouterais, messieurs, que les caractères sont nombreux, nouveaux, précis, pittoresques, et s'élèvent au type, comme chez Balzac ou Eugène Sue. Je me ferais fort de le démontrer si ceci ne devait pas dépasser le cadre de cette modeste étude. Le style est déplorable. Tranchons le mot, il est déplorable. Les auteurs, m'affirme-t-on, sont d'anciens étudiants de lettres. Ils ne font pas honneur à leur maître, avouons-le, messieurs, bien qu'ils nous en coûtent. Ils écrivent s'entretenir à quelqu'un. Il faut mieux. Ils abusent du mot « désormais ».
Fantomas, vous dites ?
Je dis Fantomas.
Ça signifie quoi ?
Rien et tout.
Et pourtant, qu'est-ce que c'est ?
Personne, mais cependant quelqu'un.
Enfin, que fait-il, ce quelqu'un ?
Il fait peur.
Dans le village, gueule de virage. Sur son sillage, notre héros jette la peste aux gens du cru. Mille punaises qu'on cueille au vol sur les deux rives. Mais Juve arrive, qui l'aurait cru ? Tout est sauvé, ça sent le phénol. Ma mère fut attachée sur un siège Louis XIII devant un revolver qui devait la tuer à 5h13. Pickpocket dans les trains, drame dans le métro, cadavre maquillé au creux des hôpitaux.
Tu féerique tremplin de ma férocité, moi, Fantomas, je saute à mon 7e étage. Pour montrer mon adresse ou montrer mon courage, pour mettre du lyrisme aux nouvelles diverses. Non, non, c'est pour montrer à ceux que j'intéresse qu'un homme chic a toujours sur lui des cartes d'adresse. Je suis entouré. Ne vous dérangez pas, messieurs, c'est pas la peine. Mon auto, tombe à la rivière. Elle flotte à cause des pneus. Voici l'hydravion découvert. Juve et Fandor en seront bleus. Crime à tous les états, crime à tous les étages. Qu'importe l'or, on l'a par tas. Il n'est crime que crime d'état. Ce qu'il faut, c'est qu'un tsar enrage, que Wilhelmine soit en cage, et tous nos ministres aussi, et les Rothschild, à ma merci.
Or, le quinquennat du bonnet s'étant trouvé empoisonné, tous les gens de l'apéritif, de l'opéra jusqu'au fortif, se contordaient sur les trottoirs. Et cet imbécile de Havard dit à Juve, « Fais ton devoir. » Juve dit,
« J'arrive trop tard. »
Ce jour-là, Dubonnet rêvait dans un égout. On ne discute pas des couleurs et des goûts. Juve l'y rencontra déguisée en ouvreuse. Ces deux personnalités bien parisiennes se mesurèrent d'un coup d'œil.
Ah, si j'avais sur moi quelques mandats d'arrêt, comme cet innocent paierait pour les coupables.
Une heure après, le policier était à table. Pour éveiller nos joies, un beau crime est bien fort. En voici mis devant des coffres forts. Et tout ça, c'est la faute aux métropolitains. Asile d'aliénés, trappe, placard, poignard, fusil de précision, glace avec ou sans teint, taxi qui vous conduit à la gare Saint-Lazare.
Alors ça, c'est le fleuve, c'est le fleuve d'atrocité, c'est extraordinaire, l'imagination de ces deux personnages, Souvestre et Alain, je dirais même Souvestre peut-être, car lorsqu'Alain s'est trouvé tout seul, il a été un petit peu, ça a été moins brillant, mais il faut dire que je crois que Fantomas, les 32 volumes avaient tout épuisé, vous comprenez, depuis depuis le roi que l'on enferme dans les fontaines chantantes de la place de la Concorde, jusqu'au type qu'on guillotine sur la scène des Bouffes du Nord avec la tête qui roule dans la fosse d'orchestre, en passant par les grands magasins où les bonnes femmes qui essayent des chaussures ont les pieds tailladés car on a glissé là-dedans des lames de rasoir. Ensuite, quel bandit, les poches bourrées de diamants, sert de bâton à une cloche. Alors quand on actionne la corde, le type se met en branle et les bijoux tombent dans l'église. Et alors il y a comme ça, je ne sais combien.
Je ne sais pas d'ailleurs si un des procédés de Fantomas n'a pas été à l'origine du fait que nos flics actuellement ne portent plus de semelles à clous. Parce que vous vous souvenez cette scène où Fantomas réussit à retenir les policiers en mettant
des aimants. Oui. Puis alors il y a je ne sais dans quelle maison aussi, on a muré des cadavres, ce qui fait que le sang sort à travers le plâtre. Enfin, alors, quand on a écrit 32 bouquins de ce genre de petits incidents et de petites amusettes, on ne peut plus rien faire. Alors.
À peu près nul souffre d'une imagination excessive. Tel est le jugement que portait sur l'élève Marcel Alain, un professeur de mathématiques. Dieu merci et pour le plaisir des foules, Marcel Alain devait en souffrir toute sa vie, ce qui lui permit, entre autres, et avec la complicité de son ami Pierre Souvestre, de faire sortir son Fantomas de situations particulièrement délicates, de lieux sans issue, comme la guillotine, par exemple.
Flancherait-il ?
Il faut voir.
Bon, on est venu pour ça.
Oh, il y en a du papillon.
Vous aurez peur, ma belle.
Moi, pas du tout.
Oh, insensible.
Parbleu, mon cher. Je n'ai plus de cœur, je vous l'ai donné.
Eh, dis donc, tu vois Geoffroy la barrique.
Oui, il vient avec Bouzille.
Fameux, dis donc. Tu te souviens du parricide du chemin?
Il est allé sans trembler, celui-là.
Peugnier aussi. Et Garne.
Oh, on paraît que c'est un homme.
Viens par ici, Fandor. Je ne tiens pas à ce que cela me reconnaisse.
Ah, ça, je m'en doute. Ils doivent pas porter l'inspecteur Juve dans leur cœur.
C'est drôle, tout de même. Ce sont toujours les futurs clients de la guillotine, les apaches, les fripouilles, qui tiennent à venir assister à ce sanglant spectacle. Ah, voici le service d'ordre. Allez, viens par là, petit. On va laisser repousser la foule.
On va rien voir.
Si c'est pas honteux, il y a deux jours qu'on se garde une place et on la perd.
Alors, c'est dit qu'on la cache, la guillotine?
Bah, on est venu pour voir Gerd épouser la veuve, non?
Mais c'est vrai qu'on voit plus rien.
Tes confrères, là-bas, tu les vois?
Ah oui, oui.
Sais-tu que tu as de la chance, mon petit Fandor, d'avoir été choisi, toi si jeune, toi débutant, pour représenter ton journal, la capitale, à cette lugubre cérémonie?
Je vous avoue, Juve, que je suis venu parce que, comme vous, je voulais voir tomber la tête de ce Gurn que vous m'avez prouvé être Fantomas, pour ne pas douter de la réalité de sa mort.
Voilà plus de 5 ans que je lutte contre Fantomas. Plus de 5 ans que je crois son existence, en dépit de tous les sarcasmes, de toutes les railleries. Voilà plus de 5 ans que je veux la mort de ce misérable, car la mort seule peut arrêter ses crimes. Ouais. Pour le bourreau, pour le procureur, pour l'opinion, c'est Gurn seulement qu'on va décapiter.
Qu'est-ce que c'est?
On voit que tu n'es pas un habitué des exécutions. La foule applaudit l'arrivée des bois de justice. Monsieur de Paris et ses aides. En une demi-heure, ils auront monté leur machine. Dans une heure, au maximum, Fantomas ne sera plus.
Une heure?
Regarde. Voici les poutres de la machine. On prend soin de ne pas les fausser. La guillotine est un instrument de précision. Tu vois, il ne faut guère de temps pour préparer l'instrument. Le bourreau n'a plus qu'à installer la bascule, puis la lunette, disposer le couteau, et tout sera dit.
Le couperet.
Le voici.
Merci. Le foin.
Du foin?
Eh oui, pour un petit essai. Tout est prêt. Tout fonctionne bien. Il n'y a plus qu'à aller prendre livraison de Fantomas.
Messieurs, dans un quart d'heure, le jour sera levé. Nous pouvons aller procéder au réveil.
Ouvrez la cellule.
Gurn, ayez du courage. Votre pourvoi est rejeté. Ayez du courage. Du courage. Allons, venez.
Priez, mon frère. Recueillez-vous. Désirez-vous entendre la messe?
Non, monsieur l'aumônier, ce n'est pas la peine. Il est l'heure.
Bien.
Faisons vite. Nous pouvons procéder. Le jour est levé. Voulez-vous un verre de rhum? Des cigarettes? Avez-vous une volonté dernière? Les ciseaux.
Voilà.
Échancrez la chemise du condamné. Attachez-lui les mains, à présent.
C'est abominable, monsieur le procureur. Il n'a pas articulé un seul mot depuis son réveil. Il est en quelque sorte plongé dans un engourdissement. Il vit et pourtant c'est déjà un cadavre. Il est complètement inconscient, incapable d'avoir une pensée précise, de prononcer une phrase à sens voulu. J'ai rarement vu un hébétement semblable.
Allons, c'est l'heure légale.
Thank you.
Suis-moi, Fandor.
Oui.
Mettons-nous là, juste derrière la guillotine. Du côté où la tête tranchée roulera dans le panier. Le voilà qui descend de la voiture.
Oh mon Dieu. Le bourreau le saisit et le pousse sur la bascule.
C'est un homme brave. Il n'a même pas pâli. Habituellement, les condamnés sont livides.
Oh, la tête dans la lunette. Oh, c'est fini.
Bon Dieu. Oh, bon Dieu, non.
Quoi? Juve! Juve, mais enfin, Juve, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenu fou!
Regarde ça, Fandor.
Juve, Juve, lâchez cette tête. Mais quelle horreur, Juve, vous êtes devenu fou.
Non, Fandor, non. Regarde-la, cette tête. Regarde-la bien. Ce n'est pas Gurn qui vient de mourir. La tête du condamné n'a pas pâli parce qu'elle était peinte, maquillée comme celle d'un acteur. Oh, malédiction! Fantomas s'est échappé. Fantomas est libre. Il a fait guillotiner un innocent à sa place.
Non.
Fantomas! Je te dis que Fantomas est vivant!
Oh!
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Dans le premier volet de cette série, nous ne pouvons pas négliger Gaston Leroux et son fameux rouletabille. Jacques Van Herpe, quelle valeur attachez-vous à ce cycle particulier de l'auteur du Roi Mystère ?
Je ne suis pas très emballé par Rouletabille. Le cycle de Rouletabille est disparate. Il y a au départ deux romans policiers. Le mystère de la chambre jaune, Le parfum de la dame en noir, qui sont de remarquables romans policiers, qui ont d'ailleurs été édités en pré-original dans la petite illustration, c'est-à-dire du côté des œuvres littéraires, ce que l'on oublie toujours un petit peu. Ensuite, Gaston Leroux s'est souvenu qu'il était journaliste. Quand il écrit « Rouletabille chez le tsar », que fait-il ? Une vague intrigue policière, et il décrit le milieu moscovite après la première révolution manquée. Ça devient un document historique, tout comme son ouvrage « L'agonie de la Russie blanche ». Les étranges noces de Rouletabille ont trait à la guerre des Balkans, qu'il mélange assez bizarrement avec la fin de Abdelhamid. Ils ont un attrait documentaire, plus alors à ce moment-là, il commence à glisser dans le calinaire. Il commence à s'amuser. Il commence à faire dire à ses personnages, avec une fausse naïveté, des choses assez énormes. Par exemple, dans Les étranges noces de Rouletabille, à un certain moment, Rouletabille et sa femme voient le cousin de celle-ci pendu. Et puis, une heure après, il est pendu d'un autre côté de la maison. Et le lendemain, il n'y est plus pendu. Et alors, un colosse qui est un ami de Rouletabille, écoute, oui, j'ai vu qu'il avait fait le simulacre de se pendre pour vous faire peur. Alors, je l'ai pris. Et puis je me suis dit, après tout, puisqu'on le croit déjà pendu, pourquoi ne pas le pendre tout à fait. Il a alors écrit Rouletabille chez Krupp, qui a paru d'ailleurs pendant la guerre dans Je sais tout, avec cette idée énorme, qui est d'ailleurs prémonitoire, construction en Allemagne de fusées destinées à bombarder Londres. Et puis il y a Rouletabille chez les Bohémiens, etc. Et là, la force n'y est plus. Il est beaucoup plus à l'aise quand il se met carrément dans la parodie. Comme dans un roman comme La bataille sous-marine ou Le capitaine X. C'est la parodie de 20 milieux sous les mers, avec une idée remarquable qui est l'entraînement à la guerre sous-marine. Le matériel est conçu en fonction de la lutte sous l'eau, et ce que Leroux décrit, nous le voyons maintenant quand passent les films de Cousteau.
Est-ce qu'on peut demander au père de Nestor Buma, précisément, le jugement qu'il porte sur Rouletabille et Gaston Leroux ?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, mais j'aime beaucoup Gaston Leroux. J'ai eu beaucoup de mal à aimer Gaston Leroux parce que au début, les phrases en italique me paraissaient être un éclat de rire se moquant du lecteur, vous voyez. Parce que je n'avais pas les premiers. Moi, j'ai lu Gaston Leroux, j'étais très jeune, alors j'avais peut-être pas le sens de l'humour à cette époque-là. J'avais l'impression qu'il se moquait du public. Mais après, j'ai appris à l'apprécier. Mais Rouletabille n'est pas mon héros favori.
J'ai connu Joseph Rouletabille quand il était petit reporter. À cette époque, je débutais au barreau et j'avais souvent l'occasion de le rencontrer dans les couloirs des juges d'instruction quand j'allais demander un permis de communiquer pour Mazas ou pour Saint-Lazare. Il avait, comme on dit, une bonne balle. Sa tête était ronde comme un boulet et c'est à cause de cela, pensais-je, que ses camarades de la presse lui avait donné ce surnom qui devait lui rester et qu'il devait illustrer. Rouletabille. As-tu vu Rouletabille? Tiens, voilà ce sacré Rouletabille. Il était souvent rouge comme une tomate, tantôt gai comme un pinson et tantôt sérieux comme un pape. Comment, si jeune, il avait, quand je le vis pour la première fois, 16 ans et demi, gagnait-il sa vie dans la presse? Voilà ce qu'on eût pu se demander si tous ceux qui l'approchaient n'avaient été au courant de ses débuts. Lors de l'affaire de la femme coupée en morceaux de la rue Oberkampf, encore une histoire bien oubliée, il avait apporté au rédacteur en chef de l'Époque, journal qui était alors en rivalité d'information avec Le Matin, le pied gauche qui manquait dans le panier où furent découverts les lugubres débris. Ce pied gauche, la police le cherchait en vain depuis 8 jours, et le jeune Rouletabille l'avait trouvé dans un égout où personne n'avait eu l'idée de l'y aller chercher. Il lui avait fallu pour cela s'engager dans une équipe d'égoutiers d'occasion que la ville de Paris avait réquisitionnée à la suite des dégâts causés par une exceptionnelle crue de la Seine. Quand le rédacteur en chef fut en possession du précieux pied, et qu'il eut compris par quelle suite d'intelligentes déductions un enfant avait été amené à le découvrir, il fut partagé entre l'admiration que lui causait tant d'astuces policières dans un cerveau de 16 ans et l'allégresse de pouvoir exhiber à la morgue vitrine du journal le pied gauche de la rue Oberkampf. « Avec ce pied, s'écria-t-il, je ferai un article de tête. »
Arsène Lupin est un de ces grands personnages du roman populaire du début du XXe siècle. À votre avis, Jacques Van Herpe, qu'est-ce qui fait le succès encore présent de ce gentleman cambrioleur si bien français?
Mais d'abord que Lupin, comme Maigret, est devenu un mythe. Lupin est quelque chose qui existe en dehors de la littérature. On dit un Arsène Lupin comme on dit un Gavroche, comme on dit un Don Quichotte. C'est donc déjà la preuve que l'auteur avait du talent. D'une part. Et secondo, eh bien, Lupin répond à ce désir inconscient qu'ont les gens de voir punis ceux qui échappent à la justice. Ce n'est pas tellement un anarchiste, Lupin. Vous pouvez remarquer que ceux qu'il vole, ceux qu'il lèse, le méritent.
Oui.
Ils ont péché dans un autre domaine. Un domaine qui échappe à la justice. Et il les punit.
Une justice parallèle, en fait.
Oui, mais Lupin est moins un anarchiste, comme on le croit, qu'un justicier. C'est d'ailleurs la caractéristique de pas mal de héros populaires. Rocambole, au départ, est un criminel. Au fur et à mesure que les ans passent, il devient un justicier. Et je suis sûr que si on avait poussé et même à la fin, dans les derniers Fantomas tourne également au justicier. Il y a là quelque chose comme le caractère bivalent des êtres qui revient. C'est probablement cette complexité des personnages qui fait qu'ils accrochent. Et puis, attention, Lupin de la profondeur, hein, c'est pas une étiquette. Sherlock Holmes, c'est un cerveau qui circule. Hein. Oui. On connaît les aventures de Sherlock Holmes, mais Sherlock Holmes n'existe pas. Lupin ressemble à Maigret.
Oui. Puis il y a aussi quand même la qualité des intrigues chez Lupin.
Ah oui.
Nous parlions l'autre jour de L'aiguille creuse, mais en fait, vraiment, c'est remarquable.
Mais
vraiment.
Là encore, Maurice Leblanc n'était pas un romancier populaire au départ. C'était lui aussi un futur académicien.
On a tout dit sur Arsène Lupin. C'est un personnage très, très séduisant. Quoi. Quand on a dit ça, on a tout dit.
La volonté de puissance anime les supermen des romans populaires. À ce propos, Arsène Lupin lui-même s'abandonne à un certain lyrisme que son rire ne parvient pas tout à fait à attribuer à son sens de l'humour. Écoutons-le dans cet extrait de L'Aiguille creuse.
Regarde. Regarde, petit Beautrelet. Ils ont dévoré toute la monnaie d'or, toute la monnaie d'argent, tous les écus et tous les ducats. Mais le coffre des pierres précieuses est intact. Les dots des reines sont là. Chacune apporta sa part. Tu diras à l'univers que Lupin n'a pas pris une seule des pierres qui se trouvaient dans le coffre royal. Je le jure sur l'honneur. Je n'en avais pas le droit. C'était la fortune de la France. Oh, comme c'est triste de quitter tout cela. Quel déchirement. Mes plus belles heures, je les ai passées ici, en face de ces objets que j'aimais. Ce qui est plus triste encore, c'est d'abandonner cette mer immense, le ciel. À droite et à gauche, les falaises d'Étretat avec leurs trois portes, autant d'arcs de triomphe pour le maître. Et le maître, c'était moi, roi de l'aventure, roi de l'aiguille creuse. Quelle destinée! Roi du monde, oui! De cette pointe d'aiguille, je dominais l'univers.
Tu vois ce double appareil téléphonique?
Oui. À droite, c'est la communication avec Paris, ligne spéciale. À gauche, avec Londres, ligne spéciale. Par Londres, j'ai l'Amérique, j'ai l'Asie, j'ai l'Australie. Dans tous ces pays, des comptoirs, des agents de vente, des rabatteurs, c'est le trafic international, c'est le grand marché de l'art et de l'antiquité, la foire du monde. Ah, Beautrelet, il y a des moments où ma puissance me tourne la tête. Je suis ivre de force et d'autorité. Et voilà, c'est fini. Une jeune fille a passé qui a des cheveux blonds, de beaux yeux tristes et une âme nette. Et c'est fini. Moi-même, je démolis le formidable édifice, tout le reste me paraît absurde et puéril. Il n'y a plus que ses cheveux qui comptent, ses yeux tristes et sa petite âme honnête. Comprends-tu, Beautrelet, pourquoi je vais te laisser le champ libre alors que tant de fois depuis des semaines, j'aurais pu t'écraser ? Hein ? Comprends-tu que tu aies réussi à parvenir jusqu'ici ? Tu le comprends, n'est-ce pas ? L'aiguille creuse, c'est l'aventure. Tant qu'elle est à moi, je reste l'aventurier. L'aiguille reprise, c'est tout le passé qui se détache de moi. C'est l'avenir qui commence. Un avenir de paix et de bonheur où je ne rougirai plus quand les yeux de Raymond me regarderont. Un avenir qui...
Mais tais-toi donc, Ganimard! Je n'ai pas fini ma tirade!
Honnête. Arsène Lupin, honnête. Plus de vol. Mener la vie de tout le monde. Et pourquoi pas? Il n'y a aucune raison pour que je ne retrouve pas le même succès. Oh, oh,
mais fiche-moi dans la paix, Ganimard! Tu ignores donc, triple idiot, que je suis en train de prononcer des paroles historiques et que Beautrelet les recueille pour nos petits-fils.
Je perds mon temps. Jamais l'inspecteur Ganimard ne saisira l'utilité de mes paroles historiques. Non, je vais laisser un message. Ça vaudra mieux.
Sur la paroi toute blanche, cette craie rouge sera du meilleur effet. Lis, Beautrelet. Lis.
Arsène Lupin lègue à la France tous les trésors de l'aiguille creuse,
à la seule condition que ces trésors soient installés au musée du Louvre, dans des salles qui porteront le nom de salle Arsène Lupin.
Maintenant, ma conscience est en paix. La France et moi, nous sommes quittes.
Arsène Lupin n'en était pas quitte pour autant avec ses lecteurs et de nombreuses aventures l'attendaient encore après cette fin lyrique de L'Aiguille Creuse. Quant à nous, nous voici au terme du premier tome de notre série des maîtres du roman populaire. Et quelle meilleure façon de terminer que de dire, dans le plus pur style du feuilleton, la suite au prochain numéro. Donc, à suivre.
Le rocambolesque est le prélude au roman policier. Pierre Dupriez, Serge Martel, Jean-Jacques Vierne. C'était une émission diffusée la première fois le 4 août 1976.